merci Alain, merci les musiciens, Dieu vous bénisse. Ça va tout le monde? C'est le printemps cette fois, hein? Non mais vraiment cette fois c'est le printemps, c'est parti. Hein? Là on a les fleurs dans le parc, ça va, bon encore un peu frais, mais ça va aller. Je dis ça pour nos frères africains qui nous écoutent et qui ont 40-45 degrés, Nicolas me disait ça l'autre jour. Je dis, on a froid ici, il me dit, ben viens. Je dis, non, je préfère mon froid. Je dis, si c'est pas Dieu qui me demande d'y aller, j'y vais pas là-bas. Voilà, tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, nous allons lire Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 15. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Est-ce qu'il y a quatre coins de la terre? Non, mais Dieu parle aux gens de son de l'époque là comme ils peuvent comprendre. D'accord. Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen.
Amen, c'est juste. C'est juste, c'est juste.
Vendredi soir, je dis ça pour ceux qui nous rejoignent sur Internet, Dieu vous bénisse. Vendredi soir, nous étions, toute la communauté, réunie dans le salon, comme nous le faisons chaque vendredi soir. Et nous sommes en train d'étudier le livre d'Enoch que vous pouvez trouver avec les commentaires que j'en ai fait sur Révélation Bible. Nous avons étudié les chapitres 39 et 41 du livre d'Enoch. Et comme nous étudions sous forme de début organisé, eh bien, nous en sommes venus à parler de l'au-delà et en particulier de l'enfer. Alors voilà. Je crois que je vais approfondir ça afin que ça soit bien clair dans nos pensées. Bien clair dans nos pensées. Les évangéliques ont repris l'enseignement catholique de l'enfer à quelques variantes près. Ils l'ont repris, mais beaucoup de choses sont restées dans le vague. Et si je peux me permettre, si vous voulez avoir une bonne idée au sujet de ce qui est enseigné sur l'enfer dans les églises chrétiennes, vous lisez ce que Télémaque en a vu. Télémaque, c'est le fils d'Ulysse et de Pénélope. C'est de la mythologie. Télémaque descend en enfer et il y décrit ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Je redis, c'est de la mythologie. Mais vous y trouverez tout ce que les évangéliques croient. Ou alors vous pouvez lire aussi tous les bouquins et écouter tous les CD qui se vendent en librairie chrétienne. En ce moment, c'est la grande mode. Hein. Vous avez plein de gens qui, lors d'une opération, tombent dans une espèce de... Voilà, ils visitent l'enfer. Il y en a plein de bouquins comme ça qui sortent depuis quelques années. C'est la grande mode. Beaucoup prétendent avoir visité le paradis, puis après l'enfer. Alors en enfer, ils ont vu exactement comme Télémaque. Hein. Des horreurs, des gens qui souffrent, de toutes sortes de maux. Ok, c'est très bien, j'ai rien contre. Ils ont le droit d'écrire des bouquins, de raconter des histoires, de dire ce qu'ils pensent. Ils peuvent dire même ce qu'ils ont vu dans leurs songes, qui sont très souvent alimentés par la croyance populaire et toutes ces choses-là. Ou alors ils ont mangé trop gras le soir avant d'aller se coucher. Enfin bon, peu importe. On est en République, on peut écrire ce qu'on veut. Seulement, il y a un hic, parce que la Bible nous enseigne que l'enfer est vide.
Ah!
Moi, j'aime la Bible. J'aime la Bible. Nous vivons dans le dernier âge de l'Église des nations, l'âge de Laodicée, qu'on trouve dans Apocalypse 3, 14 à 22. Bon, ce qui se passe précisément d'important de nos jours, c'est ce que l'archange de 1 Thessaloniciens 4, 16 fait entendre de sa voix. Ça, c'est ce qui est important aujourd'hui, d'écouter ce que l'archange de 1 Thessaloniciens 4, 16 dit. Ceux qui l'entendent, qui pratiquent ce message, eh bien, entendront la trompette de Dieu et seront enlevés. À partir du moment où ils seront enlevés, l'épouse sera enlevée, pas toute l'Église, mais l'épouse, eh bien, il y aura 7 ans de tribulation sur la terre. Au ciel, ça sera les noces de l'agneau. Et puis, l'enlèvement, l'événement marquant, sera le retour visible de Jésus venant sur les nuées du ciel. Si quelqu'un vient à vous en disant « Le Christ est ici, il est là, n'y croyez pas », il y en a un qui viendra, qui fera des miracles extraordinaires, ça sera l'Antichrist. Le Christ, Jésus, lui, il viendra comme il est parti dans les nuées du ciel. Il arrivera comme ça, tout œil le verra, tout genou fléchira devant lui, ceux qui l'ont crucifié, c'est-à-dire les Juifs et tout ça, ils les reconnaîtront. Je ne dis pas que c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus, c'est nos péchés qui ont crucifié Jésus. Mais voilà, eux, ils faisaient partie de l'histoire. Voilà. Il reviendra donc sur les nuées du ciel d'une façon visible pour régner sur la terre pendant 1000 ans. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et à partir de là, on a lu, pendant ces 1000 ans, et le diable et les démons seront liés. En tout cas, c'est écrit, Satan sera lié. C'est-à-dire, l'adversaire sera lié. Je crois, tout le camp de l'adversaire sera lié. Si vous regardez bien dans la Bible, un seul ange du ciel suffit pour le lier. Alléluia! Quand on dit Alléluia, le diable est en colère. Un seul ange, Apocalypse 20, versets 1 et 2. Un seul ange pour lier ce monstre. Vous voyez, ce n'est pas si terrible. Hein? Après ces 1000 ans, le diable sera relâché pour quelque temps. Apocalypse 20, 7. Quand je dis qu'il n'est pas si terrible, nous avons pouvoir contre le diable. Le véritable, s'il y a quelqu'un sur qui on peut écrire ennemi, c'est sur nous. Nous sommes l'ennemi du diable. Nous avons pouvoir au nom de Jésus contre l'ennemi, le diable. Nous sommes son ennemi. Il viendra pour séduire donc les nations qui sont aux quatre coins de la terre et il va faire la guerre aux saints. Apocalypse 20, 7 à 9. On vient de lire. Mais un feu descendra du ciel et les dévorera. Satan sera alors jeté en enfer, ce qu'on appelle l'enfer. La Bible ne dit pas le mot enfer, hein? Mais elle dit « étang de feu ». C'est l'Apocalypse 20, verset 10, ça s'appelle ça « l'étang de feu ». Arrivé en enfer, qu'est-ce que le diable va trouver? Deux personnes, deux de ses copains, la bête et le faux prophète. À part ça, c'est vide. Ces deux-là sont les premiers habitants de l'étang de feu. Apocalypse 19, 20. La bête et le faux prophète sont jetés dans l'étang de feu. Donc, après le millénium, il y aura 3 occupants en enfer. La bête, le faux prophète et Satan. Pour le moment, il n'y a personne. Alors, ceux qui viennent et nous raconter qu'ils ont vu des âmes souffrantes, il y en a qui disent qu'ils ont vu Elvis Presley qui souffre. Qu'est-ce que c'est que ces contes de bonnes femmes? C'est des fables. La Bible dit qu'ils écouteront des fables. Ils font du pognon en vendant des fables, mes frères et sœurs. Pendant ce temps-là, Dieu s'assiera sur son trône. Apocalypse 20, verset 11, on l'a lu. Tous les morts, les grands, les petits, se tiendront devant ce trône. Ils ne sont pas en enfer. Ils sont dans le séjour des morts qui n'est pas l'enfer. Et ils ressusciteront là pour se tenir devant le trône pour être jugés. Ce qu'on appelle le jugement dernier, c'est-à-dire le dernier jugement. Parce qu'il y a d'autres jugements. En ce moment, la Bible dit le jugement commence par la maison de Dieu. C'est ce qui se passe en ce moment. Le jugement commence par la maison de Dieu. Il y a toutes sortes de jugements. Et le dernier jugement, c'est là, au grand trône blanc, les morts, les grands, les petits, se tiennent tous là devant le trône et c'est le dernier jugement. À la fin de cette séance de tribunal, c'est la mort et le séjour des morts qui sont jetés en premier dans l'étang de feu. Donc, la mort est l'endroit, le séjour. Cet étang de feu, est appelée la seconde mort. On l'a lu, non? On l'a lu. C'est appelé la seconde mort. Donc là, la première mort meurt. La première mort meurt. Puis, tous les gens dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie sont également jetés dans les temps de feu, dans la seconde mort. Question. Où est cet étang de feu? Les religions nous disent sous la terre. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, que mon père creusait pour construire la maison à Chèvre, en Suisse. Il faisait les creusait pour pouvoir faire les caves et tout ça. Je disais, papa, j'étais petit, j'avais 3-4 ans. Je disais, papa, creuse pas trop fond, trop profond, parce que tu vas arriver et tu vas crever le plafond du diable. On va arriver en enfer. J'avais peur, je croyais que l'enfer était sous la terre. Comme il y a un trou très profond à mes yeux, j'avais peur qu'il arrive en enfer. Parce que c'est dans la pensée collective, là, l'enfer, c'est sous la terre, c'est dans le feu, sous la terre, là. C'est ce que les religions enseignent, hein. Télémaque aussi. C'est impossible. Il n'est pas là. Pourquoi? Parce que juste avant que la mort et le séjour des morts et les gens dont les noms ne sont pas trouvés dans le livre de vie soient jetés dans les temps de feu, juste avant, la terre est absolument détruite et le ciel actuel également. Apocalypse 20, 11. Si la terre et le ciel sont détruits, l'étang de feu qui est dans la terre est détruit avec. Donc, vous comprenez? Et c'est même pas quelque part dans le ciel, puisque c'est détruit. Et il ne se trouve plus de place devant Dieu pour le ciel et la terre. D'accord? Bon. Souvenez-vous, Dieu est omniprésent, d'accord? Il est omniprésent, c'est-à-dire il est présent partout. S'il n'y a plus de place devant Dieu pour le ciel et pour la terre, c'est qu'ils ont été réduits à néant. Parce que même s'il les met très, 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 très loin, ben ils sont toujours en présence de Dieu, puisque Dieu est partout. Non, il n'y a plus de place pour eux. Ça veut dire qu'ils sont réduits à néant. Donc, ils sont réduits à néant, l'étang de feu, qui va servir après le jugement, ne peut pas se trouver sous la terre, puisque la terre est rendue réduite à néant. Et de même, le paradis ne peut pas se trouver au ciel. Vous allez me dire, oui, mais Jésus dit, notre Père qui est aux cieux. C'est pour que les gens comprennent qu'il y a un royaume élevé. Et si vous voulez absolument que ça soit dans les cieux, ben ça serait dans les nouveaux cieux, mais pas dans ces cieux-là, s'il vous plaît. Dieu n'est pas limité à un endroit. Les religieux ne savent pas où se trouve l'enfer, ni le paradis. Aucun concile n'a, entre guillemets, décidé où il se trouve. Hein, parce que si les conciles qui se réunissent ne décident pas, donc voilà, c'est comme ça. Comme par exemple en 1950, le concile s'est réuni et ils ont décidé que maintenant, c'était officiel, la Vierge Marie était montée au ciel. Donc maintenant, si vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas un bon catholique. Avant, le concile n'était pas réuni. Donc on y croyait, mais ce n'était pas obligatoire. Maintenant, c'est obligatoire, depuis 1950. Beaucoup de gens ne savent pas, ils ne savent pas, mais ce n'est pas grave. Nous, on veut savoir. On nous raconte que les temps de feu, l'enfer, est un endroit affreux, qu'il est composé d'éléments matériels, consumable. Alors, ça brûle. Il y a des vers qui rongent les corps. Ils les rongent éternellement. Et le feu les brûle éternellement. Les vers fourmillent sur ces charognes humaines éternellement, sans fin. Et les démons tourmentent les gens qu'ils ont perdus ici-bas sur la terre. Ils les tourmentent, n'est-ce pas? Et les gens pleurent et les gens grincent des dents. Ça veut donc dire qu'ils ont des corps, ils ont des dents qui arrivent à grincer, hein, et ils brûlent, mais ils ne se consument pas. Saint Augustin, c'est pas rien, hein, si vous parlez de Saint Augustin. Saint Augustin, se basant sur Marc, a écrit, il dit que ce feu étrange, quoique matériel comme le nôtre, et agissant sur des corps mortels, les conservera comme le sel conserve la chair des victimes. Mais les damnés, victimes toujours sacrifiées et toujours vivantes, sentiront la douleur de ce feu qui brûle sans détruire. Il dit aussi, le cratère d'un volcan, s'il pouvait s'y plonger, serait pour eux un lieu de refroidissement et de rafraîchissement et de repos. Vous voyez, il cherchait à donner une idée aux gens pour leur faire comprendre que s'ils ne suivent pas Dieu, ça va être terrible pour eux. Sainte Thérèse d'Avila, vous connaissez? Vous avez lu au moins quelque chose. Alors elle y serait allée elle aussi, et elle dit qu'il y a des villes en enfer. Elle a vu des villes, elle a vu en tout cas une très très grande rue, délabrée et tout, et il y avait toutes sortes d'horreurs. Alors à un moment donné, elle a trouvé une petite niche, puis elle s'est calfeutrée dans la niche, elle s'est coincée là-dedans pour échapper un peu à toutes les horreurs qu'elle voyait dans cette rue épouvantable. Et il lui a été révélé que cette niche, c'était sa place qui lui était destinée si elle abusait de son vivant des grâces que Dieu répandait sur sa cellule d'Avila. Et si elle abusait des grâces que Dieu répandait sur elle, eh bien, elle serait condamnée à l'enfer. Non. Pardonnez-moi ! Pardonnez-moi ! Je ne peux pas adhérer à des idioties pareilles. Non, je ne peux pas. Et les démons, ils ont des corps, eux aussi. Alors, ils ont des corps comme des monstres, si vous lisez tout ça. Des cuirasses d'écailles, des pattes griffues, des dents aiguës. Ils ont des outils aussi, des scies, des grilles, des fourches, des pinces, et ils font souffrir éternellement les gens. Eh bien, c'est faux. C'est faux. La Bible dit qu'ils seront jetés là-bas pour leur punition, pas pour tourmenter les gens qu'ils ont déjà fait souffrir sur la terre. Moi, je crois ce que la Bible dit, et en tant que serviteur de Dieu, j'enseigne les choses que la Bible dit. Certains diront, c'est pas important, ça met pas de beurre dans les épinards, je m'en fiche de ce que vous pensez. Moi, je dois dire ce que Dieu dit. La Bible dit ça, je dis ça. Je veux pas que vous pensiez, parce que nous sommes des chrétiens, que nous croyons tout ce que les chrétiens croient. Non. Notre croyance à nous, c'est ce que la Bible dit uniquement. Alors réfléchissons un peu. Dieu ressuscite une foule de gens, hein, tous les petits, les grands, tout le monde. Et il leur redonne un corps. Parce qu'il faut le dire, les corps de ces gens... Ils sont donc, les gens sont morts, ils ont été détruits dans les tombes, hein, ok. Donc Dieu les ressuscite et il les ressuscite tels qu'ils étaient, c'est-à-dire avec leurs infirmités, les dégradations successives de l'âge, avec les dégradations des maladies et des vices et tout ça. Il les ressuscite dans un état décrépit, frileux, goutteux, comme couvert de flétrissures, de toutes les flétrissures que la vie leur a imposées. Et là, c'est le miracle, ça, c'est le miracle de la résurrection. Puis, à ces corps chétifs, qui sont tout prêts à retourner à la poussière, il donne une propriété qu'ils n'avaient jamais eue auparavant, et ça, c'est le second miracle, il leur inflige l'immortalité. Je dis bien, il leur inflige l'immortalité. C'était ce don, l'immortalité, qu'avait Adam, et ça a été retiré à Adam quand il est sorti d'Éden, quand il était chassé d'Éden. Là, ces corps morts qui sont ressuscités, Dieu leur inflige l'éternité, l'immortalité. Et alors, quand Adam était immortel, il était invulnérable. Et quand il a cessé d'être invulnérable, il est devenu mortel. Vous me suivez ? Et il est mort, ok. Donc, Dieu fait un miracle de création à ce moment-là, il donne à ses corps, devant son trône là, qu'il a ressuscité, l'immortalité, et il les jette dans le feu, non pas pour les détruire, mais pour les conserver comme ils sont, sensibles, souffrants, brûlants, horribles, dans des peines atroces, il les abandonne. Que dit la Bible ? Que dit la Bible ? Elle dit que les gens... elle ne dit que ce que les gens pouvaient comprendre à leur époque. Le feu, ça a toujours été quelque chose qui fait horriblement mal. Ceux qui se sont brûlés à la cuisine, hein, Rachel, ou avec le fer à repasser, ou n'importe quoi, c'est horrible. Déjà rien qu'une brûlure de cigarette, c'est horrible, ça fait terriblement mal. Les vers qui rongent, ça, c'est tout ce qu'il y a de plus répugnant, c'est dégoûtant, c'est une image qui choque. Maintenant, je voudrais qu'on lise Jérémie. Vous allez comprendre où je vais en venir. Jérémie 7, 20. J'ose cette prédication parce que j'aime Dieu et je veux que la vérité soit connue. Et en tout cas, moi, je veux la dire. 7, 20. Jérémie 7, 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandront sur ce lieu. En l'occurrence, c'était sur le temple à Jérusalem. Ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres, des champs et sur tous les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra pas. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voilà, Jérémie 7, 20. Il répandra sa colère et sa fureur qui brûlera sans jamais s'éteindre. Brûle-t-elle encore? Quand vous allez à Jérusalem, vous voyez toujours le feu, la fumée qui s'élève sur la place du temple? Vous voyez toujours tous les arbres qui brûlent, la colère de Dieu là-bas? Non, elle a brûlé, elle a puni et détruit ceux qui avaient mal agi. Et puis l'histoire d'Israël, elle a eu ses hauts et ses bas dans la suite. Pourtant, il ne s'éteindra pas. C'est pour donner une importance, pour faire comprendre que c'est grave, la colère de Dieu. Que la personne qui l'a subie, c'est pour l'éternité, quoi. C'est fini après. Il n'y a plus rien. Dieu avait déjà dit la même chose par la bouche de la prophétesse Hulda, longtemps avant. Une colère qui s'enflamme et qui ne s'éteindra jamais. 2 Rois 22, 17. La même chose est redite dans 2 Chroniques 34, 25. Ça ne s'éteindra jamais. Ésaïe prophétise que la colère de Dieu fondra sur toutes les nations. Il les vouera à l'extermination et les cieux seront roulés comme un livre. La terre s'abreuvera de sang. La terre va s'abreuver de sang après que le ciel ait été roulé comme un livre. Vous comprenez? C'est des phrases. Et les torrents d'Édom seront changés en poids et sa poussière en soufre et la terre sera comme de la poix qui brûle et qui s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'en élèvera éternellement d'âge en âge. Elle sera désolée. Mais je suis désolé. Si les cieux seront roulés comme un livre, la terre, elle est où? Dans les cieux. Mais les gens à l'époque ne croyaient pas ça. Ils croyaient que les cieux, c'était un truc en-dessus d'eux. Ils ne savaient pas que la terre était ronde. Ils croyaient qu'elle avait quatre coins. Ils voyaient les cieux en-dessus. Eh bien, les cieux vont être roulés, puis nous, ben, on va être avec un torrent de feu et de poids qui brûle éternellement. Vous comprenez? Est-ce que ça veut dire que Dieu dit des mensonges? Non! Ils disent que les gens pouvaient comprendre à l'époque. Si le ciel est roulé comme un livre, je le répète, la terre qui est dans le ciel, maintenant nous le savons, c'est même pas au centre du ciel, les gens pensaient qu'on était le centre de tout, et puis que l'homme c'était le centre de tout ce qui est dans le centre. Maintenant, avec les découvertes de la science, on a beaucoup plus d'humilité, n'est-ce pas, que ces religieux de l'époque. Pensez-vous que si vraiment ça arrive comme c'est écrit, il y aura d'âge en âge une fumée éternelle? Non, si le ciel est détruit, s'il ne se trouvera plus de place devant Dieu pour le ciel et la terre, eh bien la fumée, il n'y en aura plus non plus. Non, monsieur, il ne se trouvera plus de place pour la terre et le ciel devant Dieu. On l'a lu. Alors, voilà, certains disent, mais la Bible se contredit. Non! Elle ne se contredit pas. Elle dit des choses à une certaine époque, à certaines personnes qui sont capables de comprendre certaines choses, et puis ensuite elle dit les mêmes choses à des autres personnes qui peuvent, parce qu'ils sont capables de comprendre d'autres choses, parce qu'ils ont plus instruits, parce qu'ils ont fait des découvertes, et alors elle leur explique les choses plus clairement, d'une façon des fois très subtile, parce qu'il faut quand même comprendre que les derniers écrits datent de 2000 ans. À cette époque, Dieu parlait d'une certaine manière. Vous allez me dire, mais c'est pas vrai, Michel, tu nous inventes des choses. Lisons Hébreux 1:1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a parlé autrefois de plusieurs manières. À ceci comme ça, à cela comme ça. Il faut oser le dire. Il faut arrêter de faire les imbéciles. On passe pour des crétins devant les scientifiques, on passe pour des crétins devant tout le monde, si on n'ose pas dire la vérité telle qu'elle est. Moi, je ne veux pas passer pour un imbécile parce que ça salit le nom de Dieu, parce que je suis un enfant de Dieu. Ça salit mon père quand moi je passe pour un imbécile. Je préfère passer pour un hérétique devant 30 000 pentecôtistes que de passer pour un crétin devant des milliards d'hommes et de femmes. Les pentecôtistes, ils sont déjà sauvés, c'est merveilleux. Ces mots terribles et dramatiques, éternel, à jamais, sans fin et tout ça, ok. Mais subtilement, après, il parle de façon, de manière, à ce que les générations qui viendront après, qui seront plus instruites, comprennent. Alors, de grâce, ne répétez pas ce que les catholiques disaient au XIIe siècle, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La terre et les cieux disparaîtront, ils seront réduits à néant, c'est-à-dire ils retourneront à ce qu'ils étaient avant le Big Bang, c'est-à-dire à rien, rien. Plus aucune place devant eux, devant Dieu pour eux. Plus aucune place devant Dieu pour le ciel et pour la terre. Et la Bible nous dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà. Jean nous parle des tourments que subiront le diable et la bête et le faux prophète. Hein, on a lu ça tout à l'heure. Au siècle des siècles, jour et nuit. Et ceux qui sont comme eux jetés dans les temps de feu souffrent jour et nuit au siècle des siècles, un tourment jour et nuit au siècle des siècles, jour, siècle, nuit, tout ça, ça donne déjà une idée de temps. L'enfer, mes frères et sœurs, n'est pas éternel. Il durera un certain temps. Le temps de détruire toute cette racaille, oui, c'est vrai. Un siècle, au siècle des siècles, un siècle. Par exemple, pour Dieu, 1000 ans, qu'est-ce que c'est pour Dieu ? Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. On dit ça souvent, hein, mais c'est écrit dans la Bible. Un siècle, donc ça peut vouloir dire 2h40. Au siècle des siècles, ça veut dire qu'il y a au moins 2 siècles, c'est-à-dire au moins 5h20, au minimum. Allez, mettons 10 siècles. Beaucoup, c'est déjà beaucoup, 10 siècles. Mais ça, c'est, vous êtes libre de croire comme vous voulez ça. Ce n'est pas écrit combien de temps. Mais en tout cas, c'est marqué que ce n'est pas éternel puisqu'il y a un moment où ça disparaîtra de devant la face de Dieu. Ça n'existera plus. Maintenant, aux yeux de Dieu, on dit toujours, Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour aux yeux de Dieu. Oui, mais alors on ne cite jamais le verset. Mais le verset, c'est le psaume 90:4. Ça donne une idée de ce que c'est que le temps pour Dieu. C'est encore pire que 1000 ans, c'est comme un jour. Écoutez bien, c'est écrit. Car 1000 ans sont à tes yeux, ô éternel, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. C'est encore moins. Parce que moi hier, je l'ai vécu de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Mais comme ça n'est plus maintenant, si je devais vous parler de la journée d'hier, ça me prendrait quoi, allez, 20 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus qu'un souvenir. Ça veut dire que c'est rien, quoi, c'est plus rien. Mes frères et sœurs, Dieu détruira ce qui ne lui appartient pas. Il ne gardera que ce qui lui appartient. La Bible nous dit, c'est par l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, Jean chapitre 10, verset 3, que Jésus est venu uniquement pour chercher ceux qui lui appartiennent. Ce qui signifie qu'il y en a d'autres qui ne lui appartiennent pas. Il y a des choses qui ne sont pas à lui, il n'en veut plus, il les détruira et puis c'est tout. Et ce n'est pas un vicieux. Il ne va pas faire souffrir ces gens pendant l'éternité. Il va les détruire. Il va les renvoyer de là où ils venaient. De rien, du néant. Mais il y aura un temps quand même de souffrance, de tourment, bien sûr, mais pas éternel. Maintenant, vous avez parfaitement le droit de croire, de ne pas croire comme moi. Ça ne va pas, ça va rien changer. On est toujours des amis. Vous avez le droit de penser comme les catholiques ou les pentecôtistes. Vous avez le droit de penser comme vous voulez. Vous avez parfaitement le droit de penser que la colère de Dieu contre les impies ne s'éteindra jamais. Ça va être amusant. On est en présence de Dieu et pendant l'éternité, pendant qu'on est avec lui, il est quand même toujours en rogne. Hein? Non, attendez, non. Enfin, comme vous, mais vous êtes libre de croire que Dieu va être en colère pendant l'éternité et que ces gens qui ne lui appartiennent pas vont brûler éternellement, qu'il y aura un endroit, il ne faudra pas aller trop près parce que ça pue, hein, avec tous ces vers qui rongent ces charognes et tout ça, il ne faut pas aller. Par contre, je vous exhorte fermement à croire que l'enfer est bel et bien un lieu qui est préparé par Dieu. On va lire le texte sacré dans Matthieu 25, 41. Matthieu 25, 41.
Ah, ben non, c'est autre chose, ça. Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été, voilà, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, il a été préparé. L'enfer, c'est une création de Dieu. C'est Dieu qui a préparé cet endroit pour le diable et pour ses anges, pour ceux qui le suivent. Hein? Donc, c'est un lieu préparé. Retire-toi de moi, allez dans le feu éternel. Vous voyez que c'est un feu éternel. Michel, vous venez de dire que ce n'est pas éternel. La Bible dit que c'est éternel. Alors, entre Michel et la Bible, j'ai choisi la Bible. Mais vous avez raison. Si vous ne voulez pas réfléchir, continuez à croire comme ça. Vous êtes libre. Ça ne changera rien. Ça ne mettra pas de beurre dans les épinards. Ça ne fera rien. Ça ne changera rien dans nos relations. Vous êtes libre. On n'est pas, c'est pas, je ne suis pas un gourou qui vous oblige à croire des trucs et qui vous fait des menaces. Mais il faut que vous sachiez. C'est écrit, « Retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel. » Où peut-on se retirer où Dieu n'est pas? Où peut-on se retirer où Dieu n'est pas? Retirez-vous de moi. Le feu éternel, la Bible dit, c'est l'étang de feu. Et Apocalypse 20, 14 nous dit que l'étang de feu, c'est la seconde mort. Donc, retirez-vous loin de moi et allez dans la seconde mort éternelle. Le feu éternel, c'est la seconde mort, retirez-vous de moi. Maintenant, je commence à comprendre. Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous voyez? Hors de ma présence, c'est-à-dire dans le néant, il n'y a rien, il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Il n'y a rien où Dieu n'est pas. Allez dans l'infiniment petit, Dieu y est. Allez dans l'infiniment grand, Dieu y est. Retirez-vous de moi. Mais vous voulez qu'il se retire où? Dans la mort éternelle. Dans la disparition éternelle, dans l'inconscient éternel, dans le néant éternel, hors de ma présence, c'est-à-dire dans le néant, car il n'y a aucun endroit où Dieu n'est pas. Voilà la colère éternelle de Dieu. Elle a anéanti pour l'éternité dans la seconde mort. Voilà ce que la Bible dit. Mes frères et sœurs, quand vous faites une chose que vous aimez faire, par exemple, Lucas, hier, avec sa sœur, je ne sais plus qui sont allés, les gens, sont allés pêcher des poissons. Quand on va pêcher les poissons, vous avez vu comme le temps passe vite? Hein, Élise? Parce qu'on aime faire ça. C'est super. Mais quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, quand on est chez le dentiste et qu'il vous graille les dents avec sa machine qui fait et que ça charcute, ça dérape un peu sur la gencive et ça fait mal. Là, le temps est long. Non? Einstein, je crois, c'est lui qui a dit, le temps, c'est relatif. 2h40, 5h20, dans les temps de feu, mes frères et sœurs, c'est un tourment qui dure au siècle des siècles. Parce que c'est un sale moment. C'est affreux. Alors, de grâce, si vous êtes jamais repenti devant Dieu, si vous n'avez jamais fait la paix avec Dieu, c'est le moment maintenant. Parce que c'est vrai, ça existe. C'est vrai qu'il y a un tourment, c'est vrai qu'il y a un endroit où vous allez être détruit si vous ne vous repentez pas, si vous ne changez pas de vie. Il faut que vous suiviez la voix de Dieu, il faut que vous écoutiez ce que Dieu dit aujourd'hui, il faut que vous lisiez votre Bible, il faut que vous fréquentiez des chrétiens, il faut que vous viviez au plus près ce que la Bible dit, il faut que vous soyez obéissant, il faut que vous preniez votre part dans l'œuvre de Dieu, il faut que vous marchiez d'une manière digne de votre repentance, afin que ni de loin, ni de près, ni de l'intérieur, vous ne voyez jamais l'enfer, ni la colère de Dieu qui ne s'éteint jamais. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut faire la paix avec Dieu? On va incliner nos têtes, on va prier. Seigneur Jésus, je veux te prier afin que si quelqu'un se dit, voilà, moi je ne suis pas sûr d'être prêt, que ce soit ici dans la chapelle ou alors quelqu'un qui nous écoute, même à l'autre bout du monde sur Internet, si quelqu'un n'a pas vraiment cette assurance de la vie éternelle, qu'il ne suit pas vraiment Dieu, qu'il a suivi un temps mais qui est un peu rétrograde, qui a abandonné les choses, qui s'est un peu refroidi, qui est devenu un chrétien tiède. Si tu as besoin de te repentir ce matin, si tu ne veux pas aller dans ce feu éternel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te le dis, repens-toi, fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec Dieu. Toi qui écoutes sur Internet, fais la paix avec Dieu. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. Et vous qui êtes dans cette chapelle, si vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, si vous voulez vous repentir, levez votre main, je prierai pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec Dieu ce matin?
qui veut se repentir, veut dire, ne regardez pas derrière s'il y a quelqu'un qui lève sa main. Vous êtes vous devant Dieu, vous-même, personnellement, et vous faites maintenant votre choix de vie. Oui, je veux suivre Dieu. Si vous voulez faire ce choix, vous levez votre main comme ça, vite fait, et je prierai pour vous, que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a encore une deuxième personne? Une troisième, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, les jeunes. Que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Jésus, je te prie pour tous ces jeunes qui ont levé leurs mains. Je te prie aussi pour tous ceux qui sur, en écoutant Internet, mettent leurs mains sur leur cœur. Je te demande, mon Dieu, d'effacer leurs péchés, afin que jamais ils ne voient ta colère, mais que quand ils décèdent, quand ils partiront dans l'au-delà, ils soient accueillis par un ange de l'Éternel qui les conduit jusqu'en ta présence. Père, je te prie qu'ils soient sauvés. Je te prie que tu leur donnes ton esprit. Fais-les naître de nouveau, que ton Esprit Saint vienne sur eux. Souffle sur eux, remplis-les de ton esprit. Donne-leur ta pensée. Permets qu'ils puissent devenir des nouvelles créatures, qu'ils soient changés et que tu viennes à leur secours jour après jour après jour. Père, je te le demande dans le nom béni de Jésus, ton Fils, qui a tant souffert pour nous, qui s'est donné sur la croix, afin que nous n'ayons pas à subir l'enfer, mais que nous puissions être sauvés. Merci, Seigneur Jésus. Veuille bénir tous ces jeunes, veuille bénir toutes ces personnes qui en ce moment m'écoutent et ont leurs mains sur leur cœur. Essuie les larmes des yeux. Pardonne, mon Dieu. Je te le demande au nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est un bon choix que vous avez fait, les jeunes. Que Dieu vous bénisse. On va demander aux musiciens de venir.